Et oui, car cette vidéo, je vous la fais en plein milieu du jeûne du 17 Tammuz. Et effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je vais faire cette vidéo en plein milieu du matin, enfin dès le matin, comme d'habitude, ou alors en plein milieu de la journée? Je me suis dit, non, on va faire la vidéo en plein milieu de la journée, juste avant Khatsot Hayom, enfin, mamash, on est Khatsot Hayom maintenant. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on est en plein milieu du 17 Tammuz, en fait du 18 Tammuz, puisque le 17 Tammuz cette année c'était Shabbat hier, et donc le jeûne a été repoussé. Et je me suis dit, en plein milieu du jeûne, ce serait quand même important de savoir pourquoi on jeûne. Et peut-être aussi d'y trouver quelque chose de réconfortant. Vous savez, on commence aujourd'hui la période des 3 semaines, 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, un deuil par rapport au Khurban Bet Amikdash, à la destruction du temple. Mais je veux vous rappeler que cette dimension de 3 semaines dans le judaïsme n'est pas forcément négative. Il y a 3 semaines de fête en Tishrei, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot. Ce sont donc 3 semaines de Simcha, où on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu, Lifnaï Velifnim, rencontrer véritablement sans écran Akadosh Baruch Hu. Donc 3 semaines, c'est aussi le moment de rencontre avec Dieu. 3 semaines, c'est également le moment de Géoula. Entre Pessah et Yom HaAtzmaout, Geoula de Mitzrayim, Geoula Acharona. Donc on voit que 3 semaines n'est pas forcément un chiffre rasratique, et dans la mesure où il est marqué dans les Lamentations de Jérémie, Megillat Echa, à propos de Tisha B'Av, Vekara alay moed lishbor bachurai, que le jour de Tisha B'Av va devenir une fête, et pas que Tisha B'Av, toutes les fêtes, d'après Zecharia Hanavi, toutes les jeûnes deviendront des fêtes, eh bien ces 3 semaines deviendront une période de joie. Mais on n'y est pas encore malheureusement. Alors venons à notre sujet. Le 17 Tammuz, 5 événements ont touché nos ancêtres. C'est ainsi que nous dit la Mishnah. 5 événements ont touché nos ancêtres le 17 Tammuz. Alors quels sont-ils? Tout d'abord, Nishtaberu Aluchot. Les tables de la loi ont été brisées. Les premières, c'est la faute du veau d'or. Deuxièmement, Boutal Atamid, le sacrifice qu'on faisait tous les jours, le matin et le soir, enfin fin d'après-midi, au Beth Amikdash a été annulé. Troisièmement, la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Quatrièmement, un certain Apostamus a brûlé un Sefer Torah. Et enfin, cinquièmement, eh bien, a été introduit une statue dans le temple. Voilà comme nous est présentée la Mishnah. Mais venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Je mets de côté le premier Nishtaberu Aluchot, on y reviendra. Mais simplement, rappelez-vous, la première brisure du 17 Tammuz est en lien direct avec les Louchot Abrit, les tables de la loi, et leur place aux tables de la loi, c'est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints du Beth Amikdash. Mais arrivons au deuxième problème, Boutal HaTamid. Le sacrifice qu'on faisait tous les jours, le matin, Tamid Shel Shachar, et en fin d'après-midi, Amincha, Tamid Shel Ben Arba'im, a été annulé. Mais de quand parle-t-on? Nous sommes à l'époque du Second Temple. Il y a une guerre fratricide entre deux frères, Aristobulus et Hyrcanus numéro 2, les deux. Les deux sont les enfants de Alexandre Yanaï de la dynastie des Hashmonaïm de Hanouka. Et Alexandre Yanaï, qui était roi et Kohen Gadol, lorsqu'il a eu deux enfants, il s'est dit, bah, très bien, je vais en mettre un Kohen Gadol et l'autre roi. Seulement le Kohen Gadol a aussi envie d'être roi et le roi a aussi envie d'être Kohen Gadol et ils se font la guerre. À tel point qu'ils vont même appeler en renfort Pompée, Pompée de Rome. Pompeius Magnus. Waouh. Ce qui veut dire que nous allons nous-mêmes inviter Rome à rentrer en Israël, Rabotai. Au début de leur combat entre Aristobulus et Hyrcanus, il y avait une trêve chaque jour pour Corban Atamide. Mais au moment où Rome, où Pompée est arrivée, eh bien, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on n'a pas envoyé un Corban au moment du Corban Atamide. Boutal Atamide, qui va amener beaucoup plus tard, près de 100 ans plus tard, à la destruction du Beth Amikdash. En d'autres termes, Boutal HaTamid, c'est le début de la brisure, plus dans le Kodesh HaKodashim, mais cette fois dans le Beth Amikdash. Voyons, c'est un petit peu écarté du centre de la vie. Et puis après, il y a la première brèche dans la muraille. Est-ce qu'on est dans le premier temple ou dans le second temple? Eh bien, c'est une marloquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Mais sans rentrer dans la marloquette, enfin si, vous savez quoi, rentrons-en. D'après le Talmud de Babylone, eh bien, le premier temple, à l'époque du premier temple, la brèche a eu lieu le 9 Tammuz, et dans le deuxième temple, le 17 Tammuz. Pourquoi est-ce qu'on parle que du 17? Parce que, nous dit le Talmud, on est plus proche du deuxième temple que du premier. Mais dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi, eh bien, on nous expliquera que non, Et également, dans le premier temple, la brèche a eu lieu le 17 Tammuz. Mais le problème, c'est que dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Névoah, il y a marqué que la brèche a eu lieu, pour le premier temple, le 9. Alors la Gemara de répondre, « Idbalbelu acheshbonot ». La Névoah idbalbela, comment c'est possible? La Névoah, c'est Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu. Mais oui, ça veut nous dire que lorsque, en bas, c'est le balagan, eh bien, Kadosh Baruch Hu, kivyachol, genre, c'est le balagan aussi en haut. En d'autres termes, la troisième brisure, c'est le début de la chute de Jérusalem. Vous voyez, on a commencé avec le Kodesh HaKodashim, on a ouvert au Beth Amikdash, et maintenant, Jérusalem. La quatrième brisure, c'est Saraf Apostamos et Torah. Alors évidemment, s'il s'agit d'un homme qui a brûlé un Sefer Torah, les amis, si on devait jeûner à chaque fois qu'il y a un Sefer Torah qui a été brûlé, on ne mangerait pas beaucoup. Apostamos, nous dit Flavius Joseph, c'est un titre. Un titre qu'on donnait à un légionnaire romain qui est né de père légionnaire romain qui était déjà mort au moment de la naissance. Il est post-tamus, après la mort. En d'autres termes, il s'agit d'un légionnaire romain. Mais de quand? De quoi? Quelle est l'histoire? Eh bien, les amis, c'est très simple. Nous dit Flavius Joseph qu'il y a eu dans le village de Beth Horon, à l'époque de la soumission aux Romains, eh bien, il y a eu des brigands qui sont venus piller un camp romain. Les Romains sont venus dans le village de Beth Horon qui était à côté de leur camp, pensant que les pilleurs venaient de là-bas. Et ben, on fait ce que les Romains savent faire, ils ont pillé, massacré, et un des légionnaires a pris un Sefer Torah et l'a brûlé sur la place centrale du village. Ce que Flavius Joseph nous explique, que les Juifs ont ressenti cet acte comme étant tellement difficile que c'est comme si on brûlait une partie de leur terre, et ils ont décidé, suite à cet acte, de partir en révolte. C'est oui, l'acte qui a lancé la grande révolte de l'an 66 contre les Romains, qui a vu au final la chute du pays, de la Judée. Vous avez compris que le premier problème était dans le Kodesh HaKodashim, Beth Amikdash, Jérusalem, Eretz Israël. Et enfin, le dernier problème, c'est Saraf Apostamus et Hamad Tselem Baechal, a été mis une statue dans le temple. De quoi parle-t-on? Alors les commentateurs vont nous dire peut-être c'est Ménaché, le roi de Judée qui avait fait de l'idolâtrie. Peut-être que c'est Antiochus de Hanouka, peut-être c'est Titus. Alors, la Mishnah a forcément un de ces avis-là dans la tête. Mais Hamad Tselem Baechal, c'est quoi le Echal? Est-ce qu'il s'agit simplement du temple? D'après le livre de Habakkuk, Hashem be'echal kodesho has mipanav kol haaretz. D'après Habakkuk, Echalo shel Hakadosh Baruch Hu, c'est le monde entier. Et Manitou disait, Ohamad tselem be'echal, c'est le christianisme, qui amène dans le monde entier une statue, une idole, une idolâtrie à la place du judaïsme. Et vous voyez ici que nous avons cinq problématiques concentriques qui vont en grandissant. Mais on a dit, est-ce que c'est Yudzayin Betamuz ou est-ce que c'est Tov Betamuz? Oui, 17 en Gematria, c'est le mot Tov. Pourquoi Tov? Vous vous rappelez de notre premier problème? Les tables ont été brisées? Alors évidemment que c'est problématique. Mais rappelez-vous que Moshe a brisé les tables pour ne pas briser le peuple juif. Le peuple juif venait de faire le veau d'or et c'était en contradiction avec l'ota aselecha pesel vechol temuna, ne pas faire d'idolâtre, ne pas faire de représentation, d'image. Seulement Moshe comprend que s'il y a une chose qui est éternelle, eh bien c'est bel et bien le peuple juif et le lien qu'entretient Kadosh Baruch Hu et le peuple juif. Tout le reste, ça peut être brisé, mais pas le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il a vocation à corriger le monde. Même s'il n'y arrive pas tout de suite, il y arrivera. Aujourd'hui, nous avons corrigé, ou du moins nous sommes capables de corriger les problèmes dans le monde, car nous avons un mot à dire au monde entier, même si on ne le dit pas toujours. Nous sommes capables aujourd'hui de corriger les problèmes en terre d'Israël, car nous sommes souverains. Nous sommes capables, depuis 1967, de corriger les problèmes de Jérusalem. Peut-être qu'aujourd'hui, il est venu le temps de regarder vers la montagne et de commencer à corriger les problèmes du Beth Amikdash pour revenir et redévoiler l'Ouchot Abrit au Kodesh HaKodashim. Amen. Kenyi Ratzon. À bientôt les amis.